prions. Te disons merci éternel pour ce temps que tu nous donnes d'être dans ta présence, de partager ta parole. Nos cœurs sont prêts, nos esprits sont prêts, et nous savons, Seigneur, que c'est toi qui nous accueilles à ce lieu. Et ce jour était déjà inscrit dans ton programme, et nous venons seulement t'écouter. Nous voulons, Seigneur, que cette parole puisse transmettre la vie, et que cette vie aille jusqu'aux extrémités de la terre. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce moment d'écoute de la parole? Nous pouvons aussi encourager la chorale La Victoire. Merci pour ce travail. Alléluia. Alors, on va commencer par demander s'il y a deux ou trois personnes qui peuvent nous dire ce qu'ils ont retenu hier ou une bénédiction particulière que vous avez reçue hier et vous voulez partager avec tout le monde. Isaac, tu peux nous aider avec un micro baladeur. Comme ça, on peut écouter quelques bien-aimés. Avant de... Oui, Daniel. Oui, Jaro.
Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour.
Bonjour.
Oui, hier j'ai été béni par beaucoup de choses, parmi lesquelles Dieu nous a créés avec une mission de reproduction dans tous les domaines. Pas seulement la reproduction pour mettre au monde, mais à travers les messages d'hier, nous avons compris que nous avons besoin, nous sommes reproductifs dans tous les domaines. Ça, c'était un. Mais aussi, nous avons été bénis par les mots, les pouvoirs de la parole. Nous avons beaucoup de malédictions que nous avons déjà dites sur ces pays. Et les prédicateurs hier nous ont montré, si Dieu mettait à écouter toutes les paroles que nous prononçons sur ces pays, est-ce que nous pouvons dire que nous sommes en train de donner les paroles de bénédiction ou des paroles de bénédiction? Quand nous disons par exemple « Iinji haina bahati », c'est un terme que nous utilisons couramment. Et si Dieu parvenait à agréer cela comme prière, donc c'est nous-mêmes qui sommes en train de bénir ces pays. Alors, à travers ce que j'ai écouté hier, j'ai demandé pardon au Seigneur pour dire « Seigneur, pardonne-moi » parce que je suis aussi parmi les gens qui maudit ces pays à travers les malédictions que je suis en train de prononcer par mes propres paroles. Alors, le prédicateur nous a dit que la parole que nous prononçons a un pouvoir. Comme Dieu a créé le monde par la parole, il peut aussi utiliser la même parole que nous prononçons. Alors, la question que nous devons nous poser, est-ce que lorsque je dis sur mon pays, qu'est-ce que je prononce comme parole par rapport à mon pays? Amen.
Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette conviction? S'il y a quelqu'un ici, on va venir. Oui, Daniel.
Oui, bonjour encore une fois.
Bonjour.
Personnellement, j'ai été béni hier dans l'exposé lorsque l'orateur a parlé de la conviction. Quand il développait ce qu'il y a autour de la connaissance, il y a aussi les résultats, l'action et tout ça. Il y a eu une partie où vous avez parlé de la conviction et j'ai compris que notre conviction influence nos actions. Et par les exemples que vous avez donnés, ça m'a beaucoup interpellé. Et cela m'a ramené à réfléchir sur la situation que nous vivons dans notre pays. Et le frère venait d'en parler. De fois, nos convictions sont en train même d'influencer ce que nous confessons. Une fois, quelqu'un avait dit, voilà, nous allons encore voter d'autres députés. Ils vont aller à Kinshasa, ils vont aussi s'enrichir. Et quand ils vont revenir, nous allons voter d'autres. Et nous le répétons souvent en ville. Et en observant, c'est ce qui se passe. Nos parlementaires, quand ils sont à Kinshasa, nous avons l'impression que c'est ce qu'ils font. Parce que nous qui les votons, nous confessons cela avant même de les voter. Et donc, ça a fait vraiment à moi une interpellation de voir un peu comment est-ce que ce que j'ai en moi est en train de influencer ce que je dis, mais aussi ma façon de vivre. Et en deuxième position, ça m'a fait réfléchir sur la conviction et l'action. Je trouvais que quand on a une conviction, il faut qu'il y ait l'action. Et quand il y a l'action, il y a le prix à payer par rapport à l'action. Là, je rentre dans l'aspect pratique.
Ouais.
Je me suis dit, nous, Congolais, est-ce que nous avons cette façon de voir les choses? Ou d'ailleurs, moi-même, on peut avoir une bonne conviction, mais cette conviction, si on n'est pas prêt à passer à l'action, elle risquera de ne pas être tangible.
Ouais.
J'ai pris l'exemple de nos frères de la CPK, parce qu'à un moment donné, notre communauté semblait jouer le côté sécurité. Donc, quand les autres voulaient agir par rapport aux convictions, la CBK prenait un peu le côté playing safe. Et donc, un de nos frères de la CBK avait eu des convictions par rapport à la situation de la RDC. Et là, je nomme Jean-Baptiste Kasekwa. Il a eu des convictions qu'il a nourries, qu'il a eu le temps d'analyser. Et il a compris qu'il fallait passer à l'action. Et quand je parlais du prix à payer, quand on passe à l'action de ses convictions, j'ai pensé à lui. Je me suis dit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce qui nous manque, nous Congolais, pour que nous arrivions à traduire certaines des convictions que nous avons en action, mais aussi être prêts à payer le prix de nos convictions? Donc, c'est la bénédiction qui m'a amené à réfléchir à tout cela. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Daniel, Maman Olga. Et puis,
Merci pour la parole. Bonsoir, bien-aimé dans le Seigneur. Une des choses qui vraiment a parlé à mon cœur par rapport à ce que Papa Mouindo a partagé hier, c'est quand il a dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et cette image se représente par notre capacité de maîtriser la nature et de la transformer, de dominer. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée parce que souvent, je pensais que c'est l'Esprit de Dieu. Enfin, Dieu a soufflé, a soufflé sur nous et c'est comme ça que nous sommes image. Mais je n'avais jamais lié ça à l'aspect pratique que je suis appelée à dominer autour de moi. Je suis appelée à maîtriser la nature. Et quand je le fais, c'est là que je démontre que je suis réellement à l'image de Dieu. Donc, quand je ne le fais pas, je pense que je pêche et je n'accomplis pas ma mission d'enfant de Dieu. Merci.
Merci beaucoup. Ici, et puis...
Bonsoir.
Bonsoir.
J'ai été bénie lorsqu'on nous a dit que nous devons poser les actions qui produisent les résultats. Et on nous a dit aussi que ce qui nous donne les mots à dire devant les gens, c'est les résultats. C'était ça ma bénédiction.
Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui représente l'aile gauche. On va terminer par là.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Alors, j'ai été bénie par tout ce que vous avez dit hier. Ce n'est pas seulement ce que je vais dire, mais vous avez dit quelque chose qui m'a dérangée toute la nuit, c'est Dieu ne donne pas la récolte lorsqu'il veut te bénir, mais il te donne la semence. Et cette semence, il peut te donner sous forme d'une petite idée qui est facilement négligeable. Alors, je me suis dit, bon, il y a tellement d'idées qui viennent dans ma tête parfois, et ça peut m'aider à faire beaucoup de choses, mais parfois je néglige, je me dis, bon, Dieu va me bénir avec telle somme, telle chose, et je me dis, bon, c'était vraiment une interpellation et une bénédiction pour moi. Amen.
Merci beaucoup. On peut acclamer pour ce bénédiction. Ok. Retenez les acclamations. Donnez à Papa Kawata aussi de dire quelque chose. On retient les acclamations. On va acclamer encore. Le Seigneur n'est pas fatigué. C'est ce qu'il fait toute la journée.
Merci, merci frère.
Ouais.
Lorsque nous avons quitté ces lieux pour aller à la maison, nous avons été très bénis par le mot conviction. Mais nous, la conviction, nous avons compris que c'est la foi. Beaucoup de gens, quand nous parlons souvent, tel que les frères le disaient hier, et nous avons été édifiés aussi quand le pasteur était venu pour clôturer ce moment, quand il a parlé de la connaissance et de la conviction, nous avons compris, madame et moi, et que la foi que nous avons dans la parole de Dieu et dans tout ce que nous faisons, c'est ça la conviction que nous devons avoir. Nous devons avoir vraiment cette foi-là. Et c'est comme ça que nous on comprenait les mots conviction dans tout ce que nous avions dit ici. Merci beaucoup pour tout ce que nous avons suivi hier. Merci.
Merci beaucoup. On peut acclamer très fort le Seigneur pour ces différentes bénédictions. Je vais lire les derniers deux commentaires pour faire une transition sur la matière d'aujourd'hui en disant ceci. Dieu donne une semence, il ne donne pas la récolte. Parce que nous, c'est à nous de travailler pour la récolte. Si Dieu donnait la récolte, quel serait notre rôle? Manger? Allô? Le fait qu'il nous donne la semence, c'est parce qu'il veut nous faire participer dans le travail de produire la récolte. Et quand nous participons dans son œuvre, nous sommes en train d'accomplir notre mission ici sur la terre. C'est pourquoi, mes chers amis, depuis que j'ai compris ça, je ne suis jamais impressionné par les nombres des personnes qui commencent quelque chose ou qui sont impliquées par quelque chose. Si je venais à ce séminaire et il y avait seulement deux personnes, j'allais prêcher avec la même passion, les mêmes exemples, avec la même force. Parce qu'avec notre Dieu, ce n'est pas le nombre qui fait bouger les choses. Parfois, Dieu a besoin d'une seule personne pour montrer la voie. Parce que la masse suit ce qui marche. Allô? La masse suit ce qui marche. Et la masse se détourne de ce qui ne marche pas. Les gens peuvent penser que tu t'es trompé, mais le jour où ils vont commencer à sentir même que tu commences à réussir, tout le monde va venir à la récolte. Et là, je vais vous prévenir, mes chers amis, la nature de la récolte est que la récolte ne se fait pas seule. Toute le fois qu'il y a une récolte, on doit appeler les autres à venir vous aider dans la récolte. C'est le travail de planter et de s'occuper des plantes qui prend beaucoup de temps, qui demande des personnes de foi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette ténacité à se battre. Mais quand il y a la récolte, il faut être prêt à ouvrir les portes pour tout le monde de venir partager dans la récolte. L'erreur que nous puissions faire, c'est de Dieu de nous donner une semence et qu'il y a la récolte, nous commençons à chasser les gens. Vous n'étiez pas avec moi. Sortez d'ici. Non, non. La récolte, c'est une plateforme que Dieu nous donne de montrer sa miséricorde. Alléluia. Même pour toi dans la famille, même si les gens ont été contre toi toute ta vie et tu parviens à réussir, ce n'est pas le moment de commencer à les rappeler tout ce qu'ils ont fait. C'est le moment de montrer la miséricorde de Dieu. Nous voyons cela avec Joseph. Joseph qui a souffert entre les mains de ses frères et sœurs, les frères de sang. Mais quand il a eu la récolte grande et toutes les nations sont venues à la récolte, Joseph n'a pas dit, c'est moi qui ai interprété les rêves. Mindavikula, Angebi Malizak. Tu peux finir la nourriture de 7 ans pour nourrir tout le monde. Tu ne peux pas. Ça signifie que la récolte que Dieu va te donner sera plus grande que ta capacité de consommer. C'est pourquoi il faudra appeler les autres à venir partager dans ton partage. Je vois beaucoup de gens choqués quand ils ont beaucoup de gens qui les approchent quand ils ont le succès. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu travailles seul dans l'obscurité quand tu es en train de te former. Mais quand il y a le succès, tout le monde viendra Et ce n'est pas le moment d'être aigri, c'est le moment de montrer la grâce et la miséricorde de Dieu. Alléluia. Nous le voyons avec Joseph, je l'ai dit. Joseph, quand ses frères viennent et découvrent qu'ils ont affaire à Joseph, leur premier réflexe est de dire, nous ne faisons pas partie de cette récolte, nous mourons. Mais Joseph leur dit, je pense dans Genèse 50, que vous avez voulu me faire du mal. Et le verset 50, ok, je ne suis pas très sûr du verset que je viens de citer, donc vous allez vérifier ça. Vous avez dit, voulu me faire du mal, mais Dieu a transformé tout ce que vous avez voulu me faire du mal en bien. Et je pense qu'à partir de demain, Dr Abel va parler des épreuves dans cette travail. Je pense qu'il va toucher des aspects de ça. Alors, je voulais connecter cela pour dire, Dieu va te donner une semence. La semence peut être ton talent, ton intelligence, un travail que tu peux faire, un business, un livre, un poste. Mais quand il y a la récolte, ayez la grâce de faire participer tout le monde à la récolte. Parce que quand tu fais ça, tu mets une table. Tu dresses devant moi une table à présence de mes ennemis. Vous pensez que la table là est faite de quoi? Il y a la nourriture sur cette table. Allô? Le Seigneur est ton berger, il te protège, mais quand tu vois sa fidélité, il dresse une table à présence de tes ennemis. Les ennemis qui sont venus pour te tuer viennent maintenant manger et participer à la fête. Nous le voyons aussi quand les disciples ont déjà fui Jésus, je l'ai mentionné hier, ils sont allés pêcher. Quand Jésus fait un miracle, il demande de jeter les filets de l'autre côté. Ils ont des poissons jusqu'à ce qu'ils ne peuvent pas les ramener. Ils appellent les autres barques pour venir les aider. La Bible dit que quand ils reviennent sur le bord, ils rencontrent Jésus, Alisha Choma Samaki. Allô? Bangapi wanye wanez apena wakule Samaki nye Yesu yepe kalicho. Jésus prépare un repas de poissons. Les poissons qui sont allés chercher toute la nuit et qui n'ont pas trouvé, eux leur préparent ça comme un repas. Alors qu'ils ont fui la mission, et pendant qu'ils sont en train de dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre est qu'on a coulé à sa main qui n'y est soit. Il dresse devant moi une table à présence de mes ennemis. Nous devons avoir la grandeur d'esprit. De savoir que quand nous fonctionnons, quand nous sommes opposés, même en tant que nation, en tant que Congo, quand le Seigneur va amener la prospérité des nations, parce que c'est ce que la Bible dit dans Ésaïe 60, que les nations afflueront vers toi, ça ne sera pas pour nous le temps de fermer les frontières, ça sera pour nous d'enseigner au monde ce que la miséricorde de Dieu signifie. Le peuple d'Israël, quand il a été béni, tous les peuples de la terre venaient pour célébrer les fêtes des Israélites. C'est ce qui explique même que le jour de Pentecôte, il y avait les personnes de toutes les langues. Ils étaient venus à la fête. Comment ils se sont retrouvés à Jérusalem? Ils étaient venus de partout. On a cité l'Afrique, on a cité partout. Ils étaient à Jérusalem pour la fête. Et c'est là que l'Esprit se manifeste et sa parole est envoyée partout. Ok, ces gens m'ont provoqué un peu, je n'ai pas encore commencé. Alors, sur la partie de la foi dont le papa Kawata a parlé, nous disons souvent, nous lisons Hébreux 11 chapitre 1, la foi c'est une démonstration des choses qu'on ne connaît pas, tout ça. Mais la foi, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La Bible le dit, je pense. Et ce que Dieu te dit, quand il veut faire quelque chose au travers de toi, va demander la foi pour que cela soit possible. Je vais vous dire ceci. Si votre vision, vous pensez que vous êtes à la hauteur de votre vision, alors votre vision est très petite. Allô? Regardez votre vision. Si vous trouvez que, en tout cas, une vision, vous avez une petite vision, il faut aller rêver encore. votre vision, si elle vient de Dieu, va vous faire peur au ventre. Parce que vous allez voir la grandeur de ce que le Seigneur vous montre, ce qui est possible. Et vous allez dire, comment se fera-t-il, comme Marie avait posé la question. Comment je vais être enceinte? Et Dieu lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Est-ce que nous avons des visions qui nous font peur? Est-ce que nous avons des visions qui sont tellement grandes que nous ne pouvons même pas dormir? Tu dois avoir une vision qui dépasse tes ressources. Toutes tes ressources. Parce que c'est là où Dieu va venir. Eric Warren, dans son livre « The Purpose Driven Life », en français, on l'a très mal traduit, « Une vie motivée par l'essentiel ». Ce n'est pas la même chose que « The Purpose Driven Life ». Je ne sais pas qui a fait la traduction du titre, mais bon. Je pense que tout le monde connaît le livre comme « Une vie motivée par l'essentiel ». Donc, prenons ce titre-là. Dans ce livre-là, Rick Warren dit que la vision d'un enfant ressemble à son papa et à sa maman, n'est-ce pas? On est d'accord? Quand vous avez un enfant, tout le monde cherche la partie de l'enfant qui lui ressemble. La maman veut trouver, chacun d'entre nous veut se retrouver dans l'enfant. Eric Warren dit que la vision que tu as va te ressembler parce qu'elle va passer par toi, mais aussi va ressembler à Dieu parce que c'est la vision qui naît entre toi et Dieu. Elle va te ressembler parce que ce que Dieu va te donner comme vision sera dans la ligne de tes capacités, de tes convictions et des talents naturels qu'il a placés en toi. Elle va ressembler à Dieu parce que Dieu lui voit les nations. Dieu lui voit grand, plus que ta petitesse. C'est pourquoi quand Dieu te donne la vision, elle est très grande parce qu'elle est née entre Dieu qui voit l'éternité et toi qui es fini. Ça signifie que la vision, d'une certaine manière, est toujours incohérente. Jusqu'à ce qu'elle est accomplie et on regarde derrière et on se dit, « Ah, je vois maintenant. » Imaginez Moïse, Exode 14, quand on lui dit « Frappe la mer. » Il y a le peuple derrière lui. Et s'il frappait, il n'y avait rien. Obéir à Dieu, c'est un risque énorme, mes chers amis. Si vous ne comprenez pas les risques qu'il y a à obéir à Dieu, vous ne vous êtes pas encore très bien engagé. C'est un pari énorme. Et la plupart d'entre nous n'expérimentent pas la grandeur de Dieu parce que nous avons un plan B. Au cas où ça ne marche pas, cette obéissance à Dieu, j'ai quelque chose sur lequel je peux tomber. Et Dieu ne va pas t'utiliser grandement jusqu'à ce qu'il annule tous tes plans B. C'est soit tu meurs, soit tu réussis. Nous le voyons dans Esther. Quand le peuple de Dieu est menacé, Esther se dit, non, moi je suis seulement la reine, donc je vais vous aider, mais je ne sais pas comment je vais faire. Mardoché va venir la confronter, il dit, Esther, c'est maintenant ou jamais. Tu dois agir. Si tu n'agis pas, Dieu agira à travers d'autres personnes, mais toi tu vas périr. Et Esther, quand elle va se décider, elle va dire, « If I perish, I perish. » Si j'ai péri, j'ai péri. Donc quand Esther s'approche du roi, il sait qu'elle, soit elle meurt, soit elle réussit. Ça, c'est la foi qui nous amène à prendre des décisions à ce niveau-là. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler du réveil de l'Église pour la restauration de la nation. Ça, c'est aujourd'hui. Nous avons parlé le mardi du pays, de la vocation de la nation. Hier, nous avons parlé de l'éveil individuel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éveil de l'Église dans la restauration de la nation. Alors, je vous ai promis que je vais connecter la partie nation et la partie réveil individuel pour que nous puissions voir comment tout ça se lie ensemble. Et nous avons ce grand sujet de ce séminaire pendant ces deux semaines qui est dans Psaume chapitre 11, le 27:3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Quand les fondements de la morale, les fondements de la politique, les fondements des finances, les fondements de tout ce que nous avons sont renversés, le juste, que fera-t-il? Nous avons dit que le psalmiste parle des fondements au pluriel, mais quand il parle de la réponse, il dit « le juste, que fera-t-il ?» Ça signifie que face à l'effondrement de tout ce que nous voyons, la réponse est individuelle. Le juste, chaque juste doit répondre individuellement. Et hier, nous avons vu une partie de la réponse individuelle et je vais compléter ça. Comment nous pouvons combiner la réponse individuelle et la réponse de l'Église. Vérifie si ton voisin est avec nous. Je sais que toi, tu es avec nous, mais vérifie si le voisin est là. Je sais que toi, tu es avec là. Tu es là. Et vérifie si ton voisin est là. Pour toi, je n'ai pas de problème. Donc, pour ton voisin, je suis passé. Ton voisin est là. Ok, très bien. Alors, lisons dans Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 19. Nous allons aussi lire Matthieu 5, le verset 13 à 16. Et puis, je vais expliquer un peu ce texte. Et puis, nous allons passer à la partie pratique. Qu'est-ce que nous pouvons faire et comment vous pouvez vous engager en tant qu'individu. Matthieu chapitre 16, les versets 13 à 19. Matthieu 16, 13 à 19. La Bible dit, « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou les autres des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne proviendront pas point contre elle. Je te donnerai les clés du séjour des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Nous lisons Matthieu 5, 13 à 16. C'est le serment sur la montagne. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le buisseau, mais on la met sur le chandelier et il éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. » C'est la parole du Seigneur. Amen. Alors, ces deux textes ici de Matthieu vont nous guider un peu dans notre réflexion sur le rôle de l'Église dans la restauration de la nation. Je vais expliquer ces deux textes un peu, et puis je vais vous donner des orientations qui peuvent vous aider à choisir là où vous pouvez être utile en tant qu'individu et en tant qu'Église dans la restauration de la nation. Commençons par les textes de Matthieu chapitre 16. Verset 13. Jésus a une conversation intéressante avec les disciples et leur pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et les gens citent les noms, Jean-Baptiste, Élie, différents prophètes. Il dit, ok, ça c'est vraiment intéressant. Et vous, vous dites quoi? Et les disciples ont la chance parce que Pierre est toujours pressé. Il prend la parole et il dit directement, tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il donne la révélation exacte de qui le Christ est. Il ne lui donne pas un nom, il lui donne sa fonction. Christ, ce n'est pas un nom, c'est une fonction, c'est Messie, le Sauveur. Donc quand il a dit à Christ, tu es le Messie, tu es le Christ, si nous traduisons ça en français, il lui a dit, tu es le Sauveur. fils du Dieu vivant. Il ne donne pas à Jésus un nom, mais il définit Jésus dans sa fonction. Allô? Il pouvait dire tu es Yeshua, parce que Yeshua c'était le nom de Jésus. Qu'on l'appelait quand il était enfant, quand Marie l'a envoyé pour prendre du sel. Yeshua, amène le sel. Jésus, on l'a envoyé aussi. Les potes du quartier l'appelaient Yeshua. Mais ici, quand il demande qui tu suis, rappelez-vous pour les autres, ils ont cité les noms. Élie, ils ont cité Jean-Baptiste, ils ont cité les noms des gens. Mais quand Pierre répond pour dire qui est Jésus, il ne dit pas tu es Yeshua. Il dit sa fonction, tu es le Christ, le Sauveur, le Fils du Dieu vivant. Et nous voyons ce même thème dans la Bible avec Jean-Baptiste. Quand les pharisiens veulent vers lui, il lui dit, qui es-tu? Est-ce que tu es le Christ? Est-ce que tu es le Messie? Est-ce que tu es Élie? Il répond avec un verset, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts, aplanissez les chemins du Seigneur. Alors si je te posais la question, qui es-tu? Réfléchis un peu à cette question. Ne réponds pas rapidement. Qui es-tu? La réponse que tu dois donner à cette question, c'est la raison de ton existence. C'est la vision que tu dois accomplir sur la terre. C'est ça la réponse à qui es-tu. Et la vie que Dieu nous donne, c'est une révélation continue de ce qu'il a enveloppé dans notre personne. Pour que nous puissions montrer au monde qui nous sommes. Ce n'est pas comme on dit à Goma, Wataniona, Watanisikia, Kamina, Kwana. Non, ce n'est pas ça. Bon, c'est une façon de révéler qui tu es. Ça signifie que tu es stupide. Je dois vérifier parce qu'il y a des gens qui sont en ligne. Si le micro n'est pas. C'est arrivé aussi le matin, l'onction a fini les batteries. Donc je pense que c'est aussi comme ça maintenant. Merci. Donc, le Christ est touché par la réponse de Pierre. Parce que Pierre ne répond pas à Jésus en donnant son nom. Tu es Yeshua de Nazareth ou né à Bethléem, le fils de Marie. Il dit sa fonction. Tu es le Sauveur, le Fils du Dieu vivant. Et là, Yeshua Kaskia Maguswa, Akamambia, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Mais Dieu lui-même, ce n'est pas juste l'intelligence. Parce que, tu sais, Jésus connaissait Pierre. Il connaissait ce qu'il était capable de faire. Ce coup qu'on va te venir tourner à jour, nous savons ce qu'ils sont capables de faire. Et quand il peut faire quelque chose, on se dit, papa, ou mettons sa vie. C'est parce que la façon dont nous connaissons la personne, nous savons que cette idée ne peut pas venir de la personne. Il n'y a pas des gens comme ça dans votre vie. Vous les connaissez qu'il dit toujours des choses qui n'ont pas de sens. Un jour, on a qu'à toi, on a ce ma vie, tu es très cohérent, qu'il a mouton en galéana. Ok. Il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous la vérité. Ou quelqu'un qui est toujours sale. Un moment, vous le trouvez chic, bien coiffé. Le frère vient ici à l'église très souriant. On a dit que où va le moïtique? Il a proposé quelque part, on a dit oui. Ça a changé toute sa vie. Parce que les gens nous connaissent. Et ici, nous voyons que quand Pierre donne cette réponse, d'ailleurs, dans les versets qui vont suivre, dans le même chapitre, Pierre va redevenir Pierre. Parce que quand Jésus va dire, je vais mourir, Pierre va refuser. Il dit, non, tu ne vas pas mourir, nous sommes là. Et Jésus va lui dire, va derrière moi, Satan. Donc, les mêmes personnes dans les mêmes chapitres. Pierre va reprendre sa peau de pierre. Mais ce qu'il dit ici, Jésus dit que c'est l'Esprit du Seigneur qui t'a révélé ça. Et il va dire quelque chose d'intéressant. Tu es pierre. Et sur cette pierre, je construirai mon église. Je voudrais clarifier une compréhension là-bas. Il y a des pierres dont la Bible parle là. Tu es pierre. Et sur cette pierre, je construirai mon église. Et les portes du royaume de mort ne pourront pas les résister. Si vous voyez dans la langue originale, il y a deux Pierre. En français, nous le lisons Pierre, Pierre. Mais Jésus est en train de dire à Pierre, « Tu es Petros, le nom de Pierre. » Et sur cette péta, la roche qui signifie une plaque tectonique, une roche qui tient tout un continent ensemble, je construirai mon église. C'est comme si on est en Biamoutou ou Koligiwe, et sur cette ville de Goma, qui est formée de pierres, je construirai mon église. C'est ce que Jésus dit là-bas. Tu es Petros, et sur cette péta, je construirai mon église. Pour dire ceci, tu es Pierre, une partie de cette roche que tu viens de dire, mais sur cette pierre, la deuxième pierre se rapporte à la déclaration que Pierre vient de faire, que Christ est le Sauveur, le Fils du Dieu vivant. Sur cette déclaration-là, je construirai mon Église. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, il dit à Pierre, merci, Dieu t'a révélé, toi tu es Pierre. Mais sur cette déclaration que je suis le Fils de Dieu, je construirai mon Église. Alors, l'Église, c'est quoi? Et quand je pose la question, l'Église, c'est quoi? C'est une erreur. La question devait se poser, l'Église, c'est qui? Parce que l'Église, ce n'est pas une chose. L'Église, c'est un ensemble de personnes qui ont cru en cette déclaration que Pierre a dit ici, que tu es le Sauveur, le Fils du Dieu vivant. On est ensemble. Donc, l'Église n'est pas Gomaville, n'est pas la CBK, n'est pas l'Église catholique, luthérienne ou calviniste ou les autres. L'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont accepté cette déclaration de Pierre sur laquelle Christ dit, je construirai mon Église sur cette déclaration. Tout celui qui va accepter cette déclaration fera partie de mon Église. Et ici, nous voyons quelque chose d'intéressant. Les noms que les gens ont cités, chaque nom que tu cites demande une certaine réponse à ces noms. Ceux qui disent que Jésus est Jean-Baptiste, ça signifie qu'il faut qu'il les aille et qu'il les baptise, n'est-ce pas? Parce que le rôle de la personne définit comment vous répondez à la personne. Ceux qui disent qu'il est Élie, Élie, nous savons qu'il priait que le ciel se ferme et qu'il n'y ait pas de pluie pendant 3 ans, et il n'y avait pas de pluie, et il ouvre le ciel. Nous savons qu'il a tué les prophètes de Baal. Donc, la façon dont on répond à Élie, on vient chercher des miracles. Parce que Élie est l'incarnation des miracles dans l'Ancien Testament. Donc, ceux qui disaient que le Christ est Élie, voyaient la partie miraculeuse des actions que Christ faisait comme miracle. Et on répond à un miracle worker. Comment on peut dire miracle worker en français? Un faiseur de miracles. On répond à un faiseur de miracles par l'admiration et la peur. Parce que les prophètes de l'Ancien Testament n'étaient pas faciles. Il suffit qu'ils se fâchent et te disent, bon, vous vous souvenez d'Elisha? Les enfants viennent derrière lui, ils disent, hey, moi qui pars, moi qui pars. Et il les maudit, il y a des loups qui sortent de la forêt, ils déciment tous les enfants, ils les mangent. C'est dans la Bible, mes chers amis. Ce n'est pas enfant non admis. Ça, c'était des prophètes. Alors, tous ceux qui disaient que Jésus était prophète, voilà comment ils avaient comme attitude. Mais regardez, quand Pierre dit « tu es le Messie, le Sauveur », on répond à un Sauveur, à se donnant lui-même pour être sauvé. On répond à un Fils de Dieu par la révérence et à l'adoration. Tu es le Sauveur, le Fils du Dieu vivant. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que Pierre, c'est le premier chrétien en faisant cette déclaration. Parce que sur cette déclaration-là, nous tous qui sommes venus après, nous allons être sauvés par cette même déclaration. Tu es mon Sauveur, tu es le Fils du Dieu vivant et je réponds par la prosternation, par l'adoration. Donc, l'Église, c'est l'ensemble de toutes ces personnes qui ont accepté cette déclaration. Waouh! Il y a quelqu'un qui est en train de faire tourner les 30 très rapidement. Je ne sais pas si c'est là derrière ou c'est moi. Je ne sais pas. Alors, allons directement. Je viens de remarquer qu'on a très peu de temps. Allons directement à Matthieu. Matthieu chapitre 5. Je vais expliquer quelque chose là très rapidement. Alors, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière de la terre. Deux images que Jésus utilise pour parler de l'Église, pour parler de sa congrégation. Ici, c'est le serment sur la montagne dans Matthieu chapitre 5. On l'appelle serment sur la montagne, pas parce que c'était très célèbre, ils étaient seulement sur la montagne. Donc, il n'y a pas vraiment une révélation. Ne cherchez pas aucun serment sur la montagne, non. Ils étaient seulement sur une colline, c'est pourquoi on l'appelle seulement sur la montagne. Donc, certaines choses dans la Bible sont comme ils sont écrits. Donc, ne cherchez pas seulement sur la montagne, c'est quoi? Ils étaient seulement sur la colline, ok? Quand on dit qu'ils étaient dans la chambre haute, c'était seulement ils étaient à l'étage. Ça, hein? Donc, ne cherchez pas haute, ils étaient dans la chambre haute, ils étaient hautes. Non, non, ils étaient seulement à l'étage, c'est tout. Alors, les serments sur la montagne, Jésus donne la logique, les logiciels, on peut dire la constitution de ce nouveau royaume qu'il veut fonder. Et il donne deux images qui vont caractériser ce royaume. Il dit, les personnes qui feront partie de ce royaume seront les seuls et ils seront la lumière du monde. Deux concepts. Et j'ai dit le matin que Jésus est en train de parler essentiellement à des personnes illettrées qui n'ont pas étudié parce qu'à l'époque, les études n'étaient pas pour tout le monde. Ils n'ont pas de stylo. Les stylos, les écrits, il fallait aller devant un scribe pour faire écrire, si on voulait faire écrire quelque chose. C'est pourquoi les écrits à l'époque, c'était vraiment sacré. C'est pas tout le monde qui avait accès aux écrits. Alors Jésus doit prendre des images accessibles intellectuellement et quotidiennement à tout le monde pour que tout le monde puisse comprendre. Et il prend deux images, la lumière et le sel. Prenons la lumière. Jésus dit que vous êtes la lumière du monde, que c'est vous qui éclairez le monde. Mes chers amis, est-ce que vous savez que les ténèbres n'existent pas? Ça existe? Non, les ténèbres n'existent pas. Il n'y a pas de ténèbres. Les ténèbres, c'est tout simplement l'absence de la lumière. C'est ça les ténèbres. Il n'y a pas une particule. Tu ne peux pas prendre les ténèbres et chercher la particule du ténèbre. Elle n'existe pas. Les ténèbres, c'est quand il n'y a pas la lumière. Ça crée les ténèbres. Les ténèbres n'existent pas. Ce qui signifie que nous pouvons décider dans ce temple qu'il n'y aura jamais de ténèbres dans ce temple. Il suffit que seulement nous achetions des kilowattheures et nous mettions ces lampes allumées toute l'année, il n'y aura jamais de ténèbres dans ce temple. Bon, à moins qu'il y ait Sokode Katekura. Mais si nous sommes là où il n'y a pas de coupure, on peut s'arranger qu'il n'y ait jamais de ténèbres quelque part. Les ténèbres n'existent pas. Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Quand nous sommes la nuit, ce n'est pas parce que les ténèbres est venu avec nous, mais c'est parce que le soleil s'est couché. Allô? Les ténèbres ne viennent jamais vers nous. C'est pourquoi même il y a des gens quand ils vous donnent des interprétations dans les chambres de prière, il faut savoir que scientifiquement ce n'est pas correct. J'ai vu un ténèbre venir vers moi. Non, ça ne peut pas venir. Ce que tu as vu, c'est la lumière partir. Pour être correct dans votre description, les ténèbres ne peuvent pas venir vers toi. C'est la lumière qui doit partir. Ça va? Donc quand même on vous donne les prophéties, il faut tester ça, est-ce que c'est correct scientifiquement? Comment les ténèbres vont venir? C'est la lumière qui part. C'est pourquoi quand nous pouvons être ici, si le courant est coupé et nous sommes la nuit, les ténèbres seront immédiates. Il n'y aura même pas une tierce de seconde d'attente. Parce que les ténèbres n'ont pas besoin de la vitesse. La lumière a une vitesse que nous connaissons, n'est-ce pas? Une limite de la vitesse que nous ne pouvons pas transférer. C'est quoi? 3.10 exposant 8 km par seconde, je pense, si je me souviens très bien. Certains ne connaissent même pas ce que nous sommes. Hein? Combien? Mètre par seconde, oui. Non, non, c'est kilomètre. 3 exposant 8, c'est mètre. Ok.
On va vérifier ça. Mais c'est quelque chose à 3. Mais c'est dès quelque chose et puis on arrondit ça à 3. OK? Donc on est d'accord qu'il y a une limite sur la vitesse de la lumière. Et c'est la limite pour laquelle nous transmettons les informations, je vous dis pour le moment. Donc tu ne peux pas transmettre quelque chose au-delà de la vitesse de la lumière. C'est la chose la plus rapide. Et la plus petite particule de la lumière, c'est ce que nous appelons quoi? Des photons. Et c'est ce que nous prenons pour faire les panneaux solaires et autres choses. Nous captons cette lumière, nous la transformons en énergie électrique. Pour ceux qui ne connaissaient pas ça, vous allez me donner 200 francs. Okay. Non, c'est entre nous. OK, maintenant je vous dis ceci. La lumière entre les ténèbres sort. Ça signifie que nous n'avons même pas besoin de nous battre contre les ténèbres. Tout ce que nous avons à faire si nous sommes la lumière, c'est d'être présent, c'est d'être allumé. C'est d'être allumé. La seule chose que Dieu nous demande, aller dans le monde éclairé. Et si tu lis dans Ésaïe 60, verset 1, la Bible dit, lève-toi et éclaire, parce que ta lumière arrive et la gloire du Seigneur s'est levée compte sur toi. Et dit que les nations viendront de tous les côtés, verset 2, et viendront vers toi, parce qu'ils verront ta lumière. On s'élève pour éclairer quand nous avons quelque chose, quand nous avons une lumière à donner. Et quand tu as une lumière à donner, mes chers amis, la lumière va fuir au-devant de toi. Et c'est ce que Dieu dit que vous êtes la lumière du monde. Ça signifie que quand vous allez, il suffit seulement d'éclairer. Les ténèbres vont chercher où passer. Je vais vous donner quelque chose, une illustration très dangereuse. Mais si vous comprenez ça, ça peut vous aider. À supposer que nous ayons une salle qui, ça fait 1000 ans, il n'y a jamais eu de lumière. OK? Une chambre, nous la gardons pendant 1000 ans. Il n'y a jamais eu aucune lumière dans cette chambre. Mais il y a une ampoule qu'on peut allumer si on veut. Et puis nous avons une salle qu'on allume chaque nuit, on éteint. Et une nuit, les deux chambres ont la même quantité de lumière, n'est-ce pas? Tous sont noirs. Alors si nous allumons les deux ampoules au même moment, quelle est la chambre qui va avoir plus de lumière rapidement que l'autre? L'autre vient de faire 1000 ans dans la lumière. Est-ce que la lumière va tolérer ces 1000 ans? Quand même, ça fait 1000 ans que tu as là, tu as niangazié pour l'épaule. Alors, le moment où la lumière est là, quelle que soit la durée des ténèbres, les ténèbres partent sans négociation parce que les ténèbres n'existaient pas. Et là, nous devons comprendre, mes chers amis, c'est pourquoi la Bible dit, quelle que soit la durée de la nuit, joy comes in the morning. Ça, c'était anglais. La joie vient le matin. Ça signifie que si, quelle que soit la durée de la souffrance en RDC, de la souffrance du monde, le moment où la lumière va faire son entrée sur la plateforme des nations, les ténèbres vont trouver son chemin où passer. Donc notre plus grand défi, c'est de vérifier, est-ce que j'ai la lumière? Parce que si tu n'en as pas, tu peux crier tout ce qu'on va. Les ténèbres n'ont pas de respect pour toi. Vous pensez que si on était toutes les lumières ici, les ténèbres vont savoir où ni pasteur est, tu m'engagez Kidogo, où ni pasteur Lusenge quand même est, tu Murumi. Non. Nous tous, nous serons dans les ténèbres au même degré. Les ténèbres n'ont pas de respect pour toi, pour ta personne, pour ta famille. Ou même pour ta nation et pour ta race. Ça englobe tout le monde. C'est la même chose que la lumière n'a pas de limite pour la nation. Et c'est pourquoi si l'Afrique peut comprendre ce message, c'est un message prophétique. Que les nations vont ouvrir les portes, pas parce qu'ils le veulent, mais parce que la lumière est entrée. Et quand la lumière vient, il n'y a pas de négociation. Nous le voyons dans la vie de Jésus. quand il vient devant un démon, il ne parle même pas, le démon lui-même commence à s'expliquer. Oh, apa na misie tulikuwa tu hapa mais unaweza turumia tu twende hapa karibu karibu tusiende mbali. Jésus pouvait me dire, est-ce que ni me sema kitu? Parce que cette présence de la lumière fait chasser les ténèbres. Je ne veux pas dire que partout nous allons commencer à marcher, les avons commencé à fuir. Dans notre deuxième partie, nous allons voir quel genre de lumière nous devons apporter. Et, basse, on en couvre. Ok, les sels. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Il y a beaucoup de choses que j'allais dire pour ça, mais bon, vous comprenez mes émotions. Les sels. Jésus dit, vous êtes les seuls de la terre. Aujourd'hui, nous comprenons le sel parce que nous voyons le sel seulement sur la table. Il y a quelqu'un ici qui a déjà vu le sel ailleurs que sur la table? Très peu. Moi, j'ai déjà été dans une mine de sel, là où on mine le sel. C'est très intéressant d'y arriver. Tu dois porter des bottes, tu dois te protéger, tout ça, parce que le sel n'est pas facile. C'est pas facile le sel, ça peut te tuer. Il y a une mine très proche d'ici, si tu vas à Kasindi, de l'autre côté de l'Ouganda, il y a une mine de sel là-bas dans le parc Queen Elizabeth. C'est accessible, vous pouvez aller visiter ça et manger du sel. Ok, non, pas manger du sel, bon, juste pour vous inspirer. Alors, mais dans les temps de Jésus, le sel n'était pas sur la table. Les enfants d'aujourd'hui, quand vous parlez du sel, amène-moi des sels, c'est ce que nous prenons, les sels, quelque chose qui est maîtrisé, qu'on ajoute dans la nourriture. Alors quand on nous dit, vous êtes les sels de la terre, si je peux dire à ma fille Sophia, tu es les sels de la terre, ok, donc, parce que notre concept du sel est limité à un condiment que nous ajoutons dans la nourriture. Mais dans l'époque de Jésus, ce n'était pas la même chose, les sels étaient utilisés pour tout. Pour construire des routes, on utilisait le sel. Pour faire pour désinfecter la nourriture, on utilisait le sel. Pour conserver la nourriture, on utilisait le sel. On utilisait le sel pour tout. On utilisait même le sel comme argent. Oui. Certains d'entre vous, quand on vous paye, on vous donne quoi? Un salaire. Le mot salaire, vous pensez que ça vient de quoi? Ça vient de salaris, qui est le sel. Parce que les militaires romains, on les payait en quantité de sel. Tu allais prendre ton sel comme ton salaire. Allô? Imaginez ici que tu reçois un pasteur et qu'il va encore que ça n'a tout le temps à valer pas une quantité à chumvi. Chaque fin du mois, tu vas partir à maman rose chumvi, tu vas partir à la moukavate chumvi moine. Ils vont fuir le ministère, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le sel? Vous allez vendre ça, ça va donner combien? Mais là, quand on te donnait le sel, c'est comme si on coupait à $100. Tu es en train de marcher, j'ai mon sel. C'est d'où nous vient notre mot salaire. Ça vient du sel. Parce que c'était la quantité de sel qu'on t'a donné après ton travail. C'est ça le salaire. Alors quand Jésus dit que vous êtes le sel du monde, il est en train de dire que sans le, vous êtes incontournable. Vous serez incontournable si vous pouvez comprendre ce concept. Alors maintenant, on a un sérieux problème. Notre temps est fini et c'est la première partie de la prédication est finie. Est-ce qu'on peut négocier 15 minutes? N'est-ce pas? Aimé ne va pas dire, oh, Aimé, ou qui c'est mon tatoukat. Parce que c'est l'officiant. 15 minutes seulement pour que nous puissions mettre en pratique maintenant tout ça, n'est-ce pas? Ok? Il est 5, il est 17h05. Ok. Maintenant, quand nous parlons de l'influence, les sels et la lumière tous ont une chose en commun, et qu'ils exercent de l'influence. C'est ce qu'ils ont en commun. La lumière influence les ténèbres, les sels donnent de la saveur, de la signification, conservent. Et tous agissent sur leur environnement pour lui donner une flaveur quelconque. Quand la lumière est là, les couleurs sont vivides, sont visibles. Quand le sel est là, la nourriture et Boutam. Alors, l'Église maintenant est à celle de la terre. Et vous, étant que membre de l'Église, corps du Christ, est à celle de la terre. Qu'est-ce que tu peux faire pour être seul? Est-ce qu'il faut que nous allions dans le marché de Virunga et nous commençons à dire, je suis le seul de la terre, venez à moi. En pratique, ça signifie quoi d'être le seul de la terre? Alors, il y a un prédicateur ghanéen, bon, je ne sais pas s'il est ghanéen ou nigérien, qui a développé une théorie qu'il appelle les sept montagnes. Vous vous souvenez que Jésus a dit que une cité sur la montagne ne peut être comment? Ne peut être cachée, parce que tout le monde la voit. Quand tu viens, tu vois la cité qui est sur la montagne. Goma, malheureusement, est dans les vallées. Quand tu viens de Saki, tu ne vois pas Goma jusqu'à ce que tu arrives à Goma. Mais si tu vas dans des endroits comme, disons, Kigali, qui est sur les collines, avant d'arriver à Kigali, tu vois Kigali des kilomètres et des kilomètres avant d'y arriver. Et tu peux voir des lampes. Oh, voilà. C'est la même chose avec Nairobi. Bon, mais Nairobi, c'est dans les vallées. Quand tu viens de Naivasha, tu vois Nairobi en état très, très loin. C'est comme ça qu'il veut nous décrire comme une cité sur la montagne. Alors, ce prédicateur a développé ce qu'ils appellent les sept montagnes de l'influence. Que si vous contrôlez ces sept montagnes, vous allez contrôler la société. Je vais les citer et donner quelques explications très rapidement. Et pendant que je les cite, chacun d'entre nous va identifier quelle est la montagne sur laquelle je dois agir et avoir de l'influence. Ok? Trop tard. Alors, la première montagne, c'est la famille. La famille, c'est celle qui donne l'identité des personnes. Si la famille meurt, on peut donner combien de temps à la société de mourir? Et si vous regardez aujourd'hui, vous allez trouver que les familles sont attaquées de tous côtés. La famille est brisée. Et l'Église doit gérer cette montagne. L'Église doit tout faire pour que la famille, la cellule de base de la vie, soit protégée et soit un endroit où les gens développent l'identité dont ils ont besoin pour servir le Seigneur. La famille. Il y a des gens qui sont passionnés pour la famille. Nous sommes ici, nous avons le ministère des couples. Tout ce que nous voulons faire, c'est d'aider les couples à créer des familles où les gens peuvent être formés, où les gens peuvent avoir une identité qui les aide à avancer. Ça, c'est la première montagne. Si les ténèbres entrent dans nos familles, on est mal barré, mes chers amis. C'est une montagne que nous devons relever. Dans nos couples, dans la vie de nos familles, de nos enfants, s'il y a des discordes au niveau de la famille, au niveau de la cellule de base de la société, on est mal barré. Et ça, c'est une montagne. Et j'espère que centré d'entre nous vont dire, moi, je vais apporter la lumière et le sel dans les domaines de la famille. La deuxième montagne, c'est la culture. Ici, dans la culture, nous voyons ce qui nous donne la signification. Ce qui nous dit ce que nous sommes et pourquoi nous le sommes. La culture. La culture, ici nous voyons les croyances, nous voyons la religion, nous voyons l'art, la musique, nous voyons les valeurs, nous voyons tout ce qu'il y a comme ce qui crée notre tradition et notre manière de vivre et notre système de croyances et de valeurs. Et c'est là où je pense d'où se soutient notre grand thème. Quand les fondements sont renversés, si tu vois dans les domaines de la culture, tu vas trouver que tous les fondements de la société sont renversés. Le juste, que fera-t-il? Ici, nous voulons qu'il y ait des justes qui vont répondre à cette montagne issue de la culture. Comment on peut influencer la culture d'une nation? Est-ce que vous savez que la corruption, c'est une culture? Allô? La corruption, c'est une culture qui nous imprègne et nous y participons sans même le savoir. Combien d'entre nous peuvent être choqués si un agent de la DGM te demande un maïe? Moi, maïe, ok. Ça ne choque plus, n'est-ce pas? Même certains d'entre nous, avant de voyager à travers les aéroports du Congo, tu vas changer l'argent à petite coupure. Donc, tu te prépares déjà en étant à la maison que je vais laisser 500 francs, 500 francs là-bas pour passer, alors que tu es en ordre. Ça signifie que tu es devenu stratégiste pour participer dans la corruption qui est déjà établie. C'est une culture. La culture, c'est le système de croyance, le valeur d'une nation. Je veux qu'il y ait des justes qui vont dire, nous allons nous mettre debout pour faire face à la culture. Je vous donne un exemple, mes chers amis. Si la plupart d'entre vous, on vous demande quelle est la couleur des hommes, vous allez dire que c'est quoi? C'est bleu. Et pour nous tous, la couleur des hommes, c'est bleu. Mais est-ce que vous savez que cela a été décidé? Avant, la couleur des hommes, c'était rouge. Cela a été décidé, que ça soit bleu. Les jeans que nous portons ici en bleu, quand c'est bleu, c'est comme si tu es sur le style. Mais cela a été décidé par la compagnie qui a fait ces jeans. Et c'est comme ça, c'est à partir de ces jeans ici qu'ils ont transformé pour dire que la couleur des hommes, c'est bleu. Allô? Parce qu'on a fabriqué ça pour les hommes pour travailler dans des factories, dans des usines, parce que c'était fort. Et pour être un homme, il fallait porter pour montrer que tu travailles pour ta société. C'est seulement les 70 ans passés, 70-80 ans, que la couleur des hommes est devenue prédominamment. Ça, il est à Moukoukou un jour. Hein? Predominantly, est devenu bleu. Un autre exemple. Quelles sont les couleurs de Noël? Rouge, blanc. Rouge, blanc, vert. OK. Rouge, blanc, vert. Pourquoi rouge, blanc, vert? Allô? Je peux vous dire pourquoi les couleurs de Noël sont rouge, blanc, vert? Ça vient du Père Noël. Le Père Noël, avant, c'était Santa Claus, qui était un prêtre, et il y avait un prêtre Saint-Valentin qui donnait, nous connaissons les histoires des prêtres qui étaient généreux. En 1930, Coca-Cola décide de faire une publicité de Noël en utilisant l'image de Santa Claus, et on le fait porter les couleur de Coca-Cola rouge et blanc. On crée le Père Noël avec la barbe. Le Père Noël que nous avons aujourd'hui, c'est Coca-Cola qui l'a créé. C'est parce que je n'avais pas le temps. J'allais vous chercher la vidéo originale. Je vais la chercher et l'envoyer à certains d'entre vous que Coca-Cola avait fait du premier Père Noël qui est sorti de Santa Claus à Père Noël et ils lui ont donné le Père Noël. Ils ont créé des traîneaux, tout ça. Ils l'ont mis à Père Noël, ils ont mis la barbe et les couleurs de Coca-Cola. Alors vous avez votre Père Noël grâce à Coca-Cola. Je peux vous donner exemple après exemple. Certains d'entre vous vont commencer à avoir peur de certaines choses. Que tout ce que nous voyons est étudié quelque part. Et nous, les chrétiens, nous devons aller dans ces sphères-là. Parce qu'il y a des choses que nous adoptons par acculturation. Mais ce n'est pas des bonnes choses pour aider l'avancement de l'Église. Allô? Le sapin de Noël a aussi une histoire, mais j'ai demandé 15 minutes. L'éducation. L'éducation, on vient de parler de la famille, la culture, l'éducation. L'éducation, c'est le domaine qui décide ce que nous connaissons et comment nous le connaissons. Ce que nous connaissons et comment nous connaissons cette connaissance. Il y a une discipline dans la philosophie qu'on appelle épistémologie. Comment nous acquérons la connaissance. Est-ce que vous savez, mes chers amis, qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans notre cursus scolaire en RDC? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont décidé qu'il ne faut pas qu'on le sache. Allô? Parce que quand on fait un curriculum, un programme scolaire, on a une image de la personne qu'on doit avoir à la fin du cursus. Ça signifie que celui qui fait le cursus détermine, celui qui va sortir d'ici sera un ouvrier. Et le programme va être fait pour former un ouvrier. La personne décide, celui qui va sortir de ce programme cherchera toujours du travail. Et le programme est conçu, les exemples, tout pour se rassurer de produire ce genre de lauréat. On peut décider que celui qui va sortir de ça, licencié, tout ce qu'il saura faire, c'est de parler des mots difficiles, mais il ne fera rien. Et on t'informe, tu es fort en français, nous avons peur de toi, mais tu ne peux rien faire. Tout ça, ça se décide, mes chers amis. J'ai été choqué quand je suis allé étudier en étranger et j'ai trouvé des lacunes à moi que les autres étudiants n'avaient pas. Et je me suis dit, mais moi aussi j'ai étudié, comment j'ai loupé ça? Et j'ai découvert que c'était délibéré de laisser ça dans mon parcours. Et nous devons découvrir ces choses et commencer à nous former nous-mêmes. Commencer à faire notre propre programme scolaire des Congolais de demain que nous voulons produire. J'ai donné un exemple le matin. Je travaille beaucoup au maniement. Est-ce que vous savez que 90% des écoles secondaires au maniement font la pédagogie? 90%. Ils ont l'option PEDA seulement. Les autres options, c'est les sciences sociales, un peu de comptabilité. J'ai vu des écoles avec un commercial et un peu de scientifiques dans la ville de Kindu. Et c'est ça, c'est fait par les catholiques. C'est eux qui ont mené l'école scientifique là-bas. Et l'école technique, une école technique. Ça signifie que ça fait des années que chaque année, la province du Maniema produit des pédagogues, des enseignants. Et il n'y a pas d'école et le niveau est très bas. Ça signifie que ça vous donne déjà l'explication pourquoi cette province est encore enclavée. Pourquoi des gens se peuvent sortir de là et aller au plus haut niveau de l'État et ne pas être capables de faire quelque chose. Ils ont été formés à enseigner. Haïko Kosabo, il y a certaines choses où nous devons commencer à nous pardonner. Comme Jésus a dit, Seigneur, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Moi, après ces révélations, j'ai commencé à pardonner beaucoup de Congolais. Où on a quelqu'un qui agit comme directeur dans une entreprise, il dit, Seigneur, pardonne-les parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. S'il savait, quand Jésus arrive à Jérusalem pour aller y mourir, Il arrive sur les collines de Jérusalem. Jérusalem, pour arriver à Jérusalem, il faut d'abord monter l'ancien Jérusalem, pas le nouveau, parce que le nouveau est déjà très grand. Il fallait d'abord monter une montagne pour maintenant descendre. C'est pourquoi même quand tu vois les psaumes, à partir des psaumes 120, qu'on appelle les psaumes d'ascent, où on montait, qu'on chantait en allant à Jérusalem, quand je lève mes yeux vers les montagnes, ils sont en train de lever en allant à Jérusalem. Et quand on arrivait à Jérusalem, on voyait Jérusalem avant d'y arriver, à partir de la colline. Et quand Jésus arrive là-bas, il voit Jérusalem, les gens qui sont en train de vivre, ils pleurent sur Jérusalem. Il dit, mon peuple, si tu savais quelle était la source de ton bonheur, et que demain il n'y aura pas ici pierre sur pierre, tu n'allais pas être dans ce que tu es en train de faire. Ça c'est la compassion. Nous devons avoir la compassion pour notre peuple. C'est cette compassion qui va nous aider à arrêter de critiquer et à commencer à faire quelque chose. Est-ce que tu peux voir un autre Congolais qui ne sait pas diriger une entreprise et au lieu de critiquer, tu as la compassion? Comme Jésus, il était brisé, envoyé à Jérusalem et il a eu compassion. Il a dit, si ce peuple savait, nous devons être par ceux qui ont la compassion et dire, mon frère, haïkoué. Si tu savais vraiment, tu n'allais pas faire ce que tu fais. Je ne vous dis pas d'aller commencer à dire aux gens, ils peuvent te frapper. Les Congolais sont imprédictibles. Quelqu'un peut réagir très mal à cette compassion. Il faut la sentir dans ton cœur et voir là où le Seigneur te guide. Mes chers amis, je viens de m'attarder un peu sur l'éducation parce que c'est l'une de mes montagnes sur lesquelles je vais m'investir et je suis en train de m'investir. Nous devons aider notre peuple. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider à produire des ingénieurs. La Chine produit 2 millions d'ingénieurs chaque année. 2 millions, mes chers amis. Comment nous allons faire la compétition avec 2 millions d'ingénieurs chaque année? Nous produisons qui? Ok, je suis un peu emporté, pardonnez-moi. Ok, la famille, la culture, l'éducation, les médias. Les médias, c'est ce qui détermine ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Les informations qui nous parviennent et qui ne nous parviennent pas. Les médias, l'Église doit avoir l'influence dans les médias. Les médias forment notre opinion. Aujourd'hui, je peux lancer une rumeur sur TikTok et à la fin de la journée, tout le monde va croire dans cette rumeur, si seulement je suis convaincant. Et les gens sont tellement paresseux qu'ils ne prennent pas le temps d'aller vérifier. Ok, ce message circule sur TikTok, c'est quoi en réalité la vérité? Récemment, il y a eu un incident. Il y a un avion français, un cargo qui quittait N'Djamena pour aller en Tanzanie et puis à Madagascar, qui a connu des problèmes sur le ciel congolais. Alors, ils étaient tout proches de l'aéroport de Bangoka. Ils ont appelé Kisangani pour dire, est-ce que nous pouvons nous poser? Nous avons une panne. Il faut qu'on se pose immédiatement. La Bangkok a appelé Kinshasa, Kinshasa a dit « Ok, vous pouvez vous poser ». L'aéroport, l'avion, c'était l'avion militaire français. Il s'est posé à Bangkok pour faire cette réparation et pour repartir. Est-ce que vous avez vu le nombre de choses qui ont circulé sur les réseaux sociaux que les Français viennent de venir avec tout ça, tout ça? D'ailleurs, j'étais surpris que j'ai eu la formation est venue de Kigali, quelqu'un de Kigali qui m'a avoir envoyé. C'est quoi ce que je lis ici? J'ai vérifié, j'ai appelé quelqu'un à Kisangani. Il dit non. Et on a expliqué, non, c'était une panne. Le Kerloské d'Orsay a mis un commentaire pour dire non, c'était une panne. Et puis l'aéroport de Bangkok était le seul qui était proche pour sauver l'avion. Mais je suis sûr qu'il y a certains d'entre nous ici qui croient encore qu'il y a des Français qui sont descendus à Kisangani. Et qui sont probablement quelque part vers Mfoutabang en train de venir. Nous avons donné notre capacité d'analyse et de lire pour nous-mêmes et nous l'avons délégué aux médias. Mes chers amis, je voudrais que nous puissions reprendre notre capacité d'analyse. Quand on vous dit quelque chose, qu'est-ce qui te dit que c'est vrai? Tu peux avoir l'écrit critique de dire « on me dit ça ». Et c'est comme ça que les autres nous battent avec la psychose, avec la guerre psychologique. Une armée qui n'en est pas une peut créer toute une rumeur à Goma et nous commençons à fuir devant une armée qui est encore à 40 km de nous. Parce que seulement quelqu'un a eu un message, il envoie dans un groupe, celui-là aussi envoie dans le groupe dans lequel il est, l'autre envoie dans un groupe dans lequel il est, avant qu'on le sache, il est dans le groupe de la paroisse, avant qu'on le sache, quelqu'un dit « prions vraiment pour le Congo ». Alors que ça peut être quelqu'un qui n'avait rien à faire en disant ah ni fait ni acha ni chokose bato wa mgroupe et tout. Aïe. Il y a une histoire pareille qui s'est passée dans la Bible avec Démétrius. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de Démétrius. Il y a eu à Grèce toute une marche et les gens sont allés jusqu'à au terrain d'Olympe parce que Démétrius avait créé une confusion. Et en arrivant là-bas, la Bible dit « Personne ne savait pourquoi ils étaient au stade. » C'est dans la Bible, dans l'Acte des Apôtres. Vous imaginez que si vous êtes tourné au stade de l'unité, tu n'as pas l'électronique, vous allez dire « Ewan, tu crois pas jouer ?»« Ewan, nami si yo ni mon atu batu, balisha changamu, quand je ne me sais pas nami, ni ma fat. » Maintenant, nous ne le faisons pas physiquement. Combien de stades nous remplissons sur les statuts des choses qui ne sont pas vérifiées? Les médias. Un dernier exemple sur ça. La guerre en Ukraine fait seulement 8 mois qu'elle dure. Mais nous tous, nous avons beaucoup de détails sur cette guerre. Nous connaissons des villes comme Donetsk, Mariupol, Odessa, Donbass, la région, Crimée, Kiev, Kharkiv. Tout ça, nous les connaissons. Comment c'est arrivé dans ma tête et je n'ai pas cherché cette information? Parce que les médias ont décidé que cette guerre est plus importante. Et que nous devons tirer attention. Ça fait combien de temps que les gens meurent à Béni? Si les médias décident que cela soit invisible, cela sera invisible. On peut rendre ta situation invisible
si nous ne sommes pas, si nous ne sommes pas, if we are not, ok, français naïche, ok, tu entends les médias, la science c'est ce qui détermine, la science aujourd'hui a un grand mot à dire sur ce qui se passe dans la nation et dans le monde entier. La science, si nous voyons la médecine, l'innovation, la technologie, les téléphones, tout ce qu'il y a comme innovation, mes chers amis, la science, c'est une montagne. Et je veux que certains juste s'engagent dans les domaines scientifiques. Bravo pour les médecins qui sont ici. Bravo pour les scientifiques, les architectes, tous ces gens. Vous êtes nos lances là-bas. Vous êtes nos flèches. Et vous devez acquérir la connaissance au plus haut niveau jusqu'à être des autorités dans ces domaines. Vous savez, une autorité? Une autorité, c'est à qui on réfère dans un domaine pour prendre une décision. Les chrétiens doivent être ces autorités-là dans les domaines médicaux, dans les domaines scientifiques, dans l'informatique, dans tous les domaines. Si nous ne les faisons pas, les gens vont décider à notre place. Un exemple là-bas. Quand il y a eu COVID-19 ici, combien de églises ont été consultées avant que le gouvernement décide quoi faire? Les gouvernements se sont levés, ils ont dit, bon, les scientifiques disent que la propagation est comme ça, restez chez vous. Oh, après, on a tout à rester chez vous, fermez les églises. On a fermé à Gomaville pendant 4 mois. Allô? Et quand les mêmes scientifiques ont décidé que non, ça va maintenant, on pouvait sortir, on est sorti. La Chine a eu la politique zéro COVID pendant toute une année. Toute une année, 1,4 milliard de Chinois ont été entassés dans leur maison à cause de la politique de Xi Jinping de zéro COVID. Maintenant que leur économie commence à basculer à cause de la politique, la semaine passée, Xi Jinping s'est réveillé et dit non, non, zéro COVID est fini. Et la COVID, non, non, ça on va voir après, mais zéro COVID, c'est fini. Donc aujourd'hui, c'est le 5. Donc à partir du 8, c'est que c'est dimanche, les Chinois auront maintenant à sortir de leur pays et toi, tu peux maintenant aller en Chine à partir de ce dimanche ici. Décidé par qui? Xi Jinping. Et pendant toute une année, certains d'entre vous, vos commerces sont tombés parce que vous ne pouvez pas aller en Chine parce que quelqu'un a décidé que chez nous, c'est zéro COVID. Nous devons entrer dans ce domaine de la science. L'autre, ce sont les affaires. Je viens de faire la famille, les cultures, l'éducation, les médias, la science, les affaires. Les affaires, c'est ce qui contrôle les finances du monde. C'est lui qui contrôle le flux de financement, c'est celui qui contrôle le monde, mes chers amis. Ne nous voilons pas la face. La Bible dit dans Proverbe, je pense 28:9, que les pauvres sont esclaves. Non, les pauvres sont esclaves aux riches et celui qui se prête est esclave et celui qui l'a prêté. Ça, c'est dans la Bible. Celui qui contrôle les finances du monde contrôle aussi nos opinions. Il y a des débats que nous allons commencer à avoir dans la CBK parce qu'il y aura quelqu'un qui a l'argent et qui veut que ces débats puissent avoir lieu. Il y a des débats que nous allons commencer à avoir dans nos familles parce que quelqu'un a l'argent et a décidé, il faut que le monde parle de ces débats ici. Jacob était le père des nations. Israël, Dieu lui avait donné le nom d'Israël. Et il lui dit, tu vas former ma nation. Mais Jacob est en train de mourir de la faim. Il y a la famine à Canaan. Dans la terre promise, plein de milk and honey. C'est quoi? Le miel, le sang. Le lait et le miel. Il y a la faim dans la terre de Canaan. La terre promise. Et Jacob va dire à ses fils, nous ne pouvons pas mourir avec la faim ici, alors que j'ai attendu qu'il y ait la nourriture en Égypte. Un prophète, un oint de Dieu, va aller en Égypte, dans une terre étrangère, qui n'adore pas Dieu, pour chercher la nourriture. Mes chers amis, la faim. il faut avoir faim, tu vas comprendre ce que la faim peut te faire faire. Il faut avoir la crise, rien à poche, et tu as des gens à nourrir. Tu vas comprendre ce que ça peut te faire faire. Jacob va envoyer ses fils. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël va se trouver en esclavage pendant 400 ans. Parce que le prophète avait faim.
Et ce qui est drôle est que c'est son fils qui a révélé à l'Égypte quoi faire pour survivre. Son propre fils. Ce n'est pas rigolo, mes chers amis. Est-ce que vous savez combien de Congolais dirigent dans le monde avec excellence dans d'autres pays? Beaucoup de Congolais, quand vous les retrouvez dans leurs responsabilités ailleurs, vous dites, ok, n'y expliquez bien. Où que Congolais a combien? Ni que Congolais ou à Virunga. Mais comment expliquer ce niveau d'excellence dans d'autres nations alors que chez nous, il y a la faim et nous avons les ressources? Nous sommes dans la terre promise. C'est parce que nous n'avons pas si géré les finances. C'est lui qui contrôle les finances, contrôle le monde. Le dernier, c'est la gouvernance. Qui contrôle les règles du jeu? La gouvernance. La politique. Qui contrôle ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire? Kagame s'est réveillé un jour et il a fermé 6000 églises. Un week-end. Il avait dit, l'église qui n'a pas un pasteur, qui n'a pas la théologie, va être fermée. Il fallait avoir un parking, je pense. Il fallait aussi... Il fallait des toilettes et un terrain. C'était seulement presque 5 demandes seulement. Et on a formé 6000 églises. Aujourd'hui, tu ne peux pas prêcher au Rwanda porte à porte. On a tout comme tout. Oh, bois naïf, naïf, on te demande, diplôme en théologie, quoi. Si tu n'as pas, tu sors. La politique, c'est ce qui contrôle les règles du jeu. Mes chers amis, tu peux jouer à un jeu très excellemment, mais qu'est-ce qui arrive quand l'autre joueur est en train de tricher? Tu seras toujours battu. Ou imaginez, tu es dans un amour tout moyen, il y a qu'on a triché. Ou qu'on a coulé ma pierre, on a quoi, on est à zingine. Attaque-malise. La politique contrôle les règles du jeu. La politique peut décider qu'il n'y aura pas une route qui va relier Goma et Butembo. Elle peut le décider. La politique peut décider que cette partie du territoire ne va pas se développer. C'est pourquoi nous devons entrer dans ces sphères aussi et aider à faire, à changer les règles du jeu. Un dernier exemple, j'ai fini ça. Maro ya Moucho Moucho. Quand le peuple, quand Dieu veut sortir son peuple de la déportation, Dieu dit qu'il va envoyer son serviteur pour faire sortir les choses de la déportation. Et le serviteur qui c'est un roi païen, Darius. Darius qui devient roi et qui va faire un décret que tous les Israélites qui sont dispersés dans le royaume peuvent maintenant rentrer chez eux. Les Israélites rentrent en chantant dans la joie. Parce que seulement Darius a signé un document. Et ça faisait 70 ans qu'ils étaient là. Votre souffrance de 70 ans, moutouane imalise en signature. Signature, mes chers amis. Je vous dis, il y a beaucoup de nos souffrances qui peuvent être terminées par une signature. Mais il faut qu'on sache qui signe. Et comment parvenir à ces gens qui signent. Alors, je viens de donner les 5 montagnes. Choisissez la montagne qui est dans vos talents, qui est dans votre appel, qui est votre fardeau. Et que le Seigneur nous aide, nous tous. L'Église doit nous envoyer comme des flèches dans ces différentes montagnes. Nous sommes le sel et la lumière du monde. Et je vous assure, mes chers amis, la lumière n'existe pas. C'est l'absence des ténèbres. C'est parce que... Merci beaucoup. Je vois que tout le monde suit. Les ténèbres. Mais j'ai vu qu'on distrait, c'est comme ton assez. Amen. Amen, amen. Pas les yeux comme nous goûts. Les ténèbres n'existent pas, c'est l'absence. Est-ce que nous les chrétiens, si on se regarde bien dans les miroirs, est-il possible que les ténèbres que nous voyons, c'est parce que nous n'avons pas allumé la lumière? Je vais vous laisser avec cette question. Les ténèbres que je vois autour de moi, est-il possible? C'est possible. C'est possible que je n'ai rien à voir avec ça. Mais est-il possible que ce n'est pas moi qui ai allumé ma bougie? Que l'Éternel vous bénisse.